Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Tchaos, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler de l'artiste Watanabe Marina. On parlera ensuite de quelques mangas des éditions Glénat avec la présentation du manga Diablo Machia. On aura la chronique du volume 10 de Ariadne, l'Empire Céleste. On aura également la chronique du volume 4 de 100 jours avant ta mort et le volume 4 de Helio le Fugitif. On aura un petit point sur les sorties mangas de la semaine. On parlera culture, on continuera donc avec les secrets du saké et on finira l'émission avec une petite news musicale concernant Gemini et Mirani qui seront en concert à Paris au mois de mai. On commence donc avec la première chanson de l'émission, c'est We Are Together de The Boss et on viendra juste après pour parler de l'artiste Watanabe Marina. C'était The Boss avec la chanson We Are Together. On passe maintenant à la présentation de l'artiste Watanabe Marina, de son vrai nom Nagura Marina. Donc c'est une actrice, présentatrice télé et chanteuse de pop japonaise qui est née le 18 novembre 1970, elle est donc âgée de 51 ans et elle est en activité depuis 1986. Elle a également fait partie du groupe Onyanko Club en tant que chanteuse. Donc Marina Watanabe, née à Tokyo au Japon, débute en 1986 en rejoignant le groupe pop féminin Onyanko Club sous le numéro 36, sans lien de parenté avec sa collègue homonyme Minayo Watanabe. Elle en devient vite une des membres les plus populaires et débute parallèlement en solo avec le tube Shinkokyo Shite, à la fin de l'année 1986. Elle continue sa carrière solo après la séparation du groupe en 1987, en sortant de nombreux disques pendant une dizaine d'années. Elle joue également dans quelques dramas et anime des émissions télé. Elle est toujours connue dans les années 2000 pour ses livres sur la mode et les voyages, et elle se marie ensuite en 2005. Donc côté discographie pour toute sa carrière en solo uniquement, elle a sorti 9 albums, le premier Marina qui est sorti en 1987, et le dernier c'est Ring a Bell qui est sorti en 1996. Elle a également sorti 17 singles, le premier je le disais tout à l'heure c'est Shinkyoku Shite en 1986, et le dernier Taiyo to Anouta qui est sorti en 1997. Elle a participé à 2 compilations, Otoshidama qui est sorti le 12 septembre 1987 et I Will CKBC Image Album Sentimental Lilac qui est sorti quant à lui le 20 novembre 2002. Pour finir, elle a participé à 3 OST, l'OST de Yawara Soreyuke Koshinuke Kids qui est sorti en 1992, Nippon Animation Soritsu Niju Go Shunen Kikaku Anime Shudaika Tenzai Shu qui est sorti en 2000 et également Our Anime Hits qui est sorti en 2015. Voilà, du coup on va pouvoir s'écouter tout de suite 2 chansons de Watanabe Marina. On commence avec Daisuki na Shirt, une chanson extraite de l'OST de l'anime Yawara, et on reviendra juste après pour parler du manga Diablo Machia.
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Donc c'était Watanabe Marina avec la chanson Ureshi Yokan. On passe maintenant à la présentation du manga Diablomachia. Donc c'est un shonen italien de genre aventure, comédie, fantastique qui a été écrit par Da Osoi. La version française est parue aux éditions Glénat le 5 janvier 2022 avec pour le moment un seul tome de sortie, la série étant toujours en cours. Vous pourrez retrouver Diablomachia dans le commerce pour un prix de 6,90€. L'âge conseillé pour le lire est de 14 ans et plus, et il n'existe pas d'adaptation en animé. Adopte un gentil démon. Le résumé de cette série, Nev est un invocateur qui coule des jours heureux avec deux gentils démons. Sa mission, les invoquer sur Terre car ils sont harcelés en enfer pour leur nature bienveillante. Mais ce stratagème est vu d'un mauvais œil par les autres démons qui vont tenter de s'infiltrer dans leur refuge pour le réduire à néant. Neve va devoir se battre pour préserver ce qui lui est cher en utilisant d'étranges et puissants nouveaux pouvoirs. Cependant, il est loin de se douter que ce combat va remettre en question toutes ses certitudes. Donc à savoir sur l'auteur, Da Osoi est un auteur d'origine italienne, mais après quelques formations au Japon, il a acquis un trait typiquement shonen, qui n'est pas sans rappeler celui de My Hero Academia. Le résultat, on a là un shonen dynamique qui mérite sa place dans le cœur de tous les amateurs du genre. Voilà, donc je rappelle que Diablomachia est à retrouver avec pour le moment un seul tome aux éditions Glénat. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Give It To Me Baby de The Fool, et on reviendra juste après pour la chronique du volume 10 de Ariane, l'Empire Céleste. C'était The Fool avec la chanson Give It To Me Baby. On passe maintenant à la chronique du volume 10 de Ariane, l'Empire Céleste. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère, science-fiction, qui a été écrit par Yagi Norihiro et prépublié dans le Shukan Shonen Sunday. La version japonaise est parue aux éditions Shogakukan avec un total de 16 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Glénat avec pour le moment 12 tomes. Ce volume 10 est sorti le 18 août 2021 au prix de 6,90€. Et je rappelle aussi que la série est pour public averti à cause de la violence modérée. Donc le résumé de ce tome, le voyage de la princesse Léana et de son chevalier de l'azur L'Achille se poursuit joyeusement, des compagnons de route les rejoignant au fur et à mesure de leur périple. Mais leur trajectoire les amène à la confrontation directe avec les Cœurs de Lion, une troupe spéciale chargée de l'éradication des 11 disparus, et à faire la découverte des mystérieux tiers dés, tandis que de sombres individus veulent s'emparer des 3 trésors secrets qui révéleraient la voie vers la lumière primordiale. Sauf que quiconque s'en alerte, c'est bien le monde dans son ensemble qui est sur le point d'être chamboulé. Un conte de fées où espoir et désespoir se mêlent, attirés par un même rayon de lumière. Donc dans la ville de Nomade, les 11 disparus, un groupe d'adolescents se faisant passer pour nos héros, mais parmi lesquels pourraient bien se cacher un ou deux vrais porteurs de photons, sont plutôt mal en point. Non seulement ils sont désormais pris en tenaille entre une bande de loubards et une famille mafieuse de la cité, mais en plus ils voient surgir devant eux l'une des escouades des Cœurs de Lion, une escouade qui est précisément chargée de retrouver et d'éradiquer tous les porteurs de photons disparus. Forcément, le groupe de jeunes imposteurs ne fait pas le poids. Et pire encore, Kagura, vraie porteuse de photons cachée parmi le groupe, est rapidement démasquée et emportée à l'écart. L'Achille et ses compagnons arriveront-ils à temps à Nomade pour sauver la jeune fille et ses amis imposteurs ? Donc la dernière partie du tome 9 d'Ariane, l'Empire Céleste, surprenait légèrement en nous plongeant directement auprès des fameux imposteurs des 11 disparus, nous permettant ainsi de rapidement faire un peu mieux connaissance avec eux et de voir les raisons de leur imposture, avant de voir des ennuis sérieux leur tomber dessus avec l'arrivée des Cœurs de Lion. Il faut à Norihiro Yagi environ les 2/3 de ce 10e volume pour conclure cette nouvelle partie, pour un résultat qui propose autant du bon que du moins bon. Dans les faits, en plus de permettre à nos héros de retrouver une autre compagne et de rester intrigués devant le comportement fuyant d'un autre, l'arc est assez sympathique pour différents détails, la découverte rapide de Kagura bien sûr, ainsi que ce qui l'a poussé à se fondre parmi les imposteurs et le substitut de famille qu'elle y a trouvé, mais aussi certaines facultés des Cœurs de Lion entre celui pouvant se camoufler ou les autres pouvant repousser l'énergie photonique. Autant dire que l'Achille, Loulou Lola et les autres auront fort à faire pour les contrer, quitte à exploiter des techniques qui gardaient encore sur le coude. Avec en point culminant le duel de l'Achille contre le capitaine Horus, qui confirme surtout toute la puissance de notre héros recèle en lui. Mais malgré les bonnes idées, il y a toujours pas mal de limites dans les choix et le rendu visuel de l'auteur. Au-delà des quelques petites facilités, comme l'Achille qui surgit entre Kagura et son adversaire pile au bon moment en donnant l'impression de sortir de nulle part, on regrettera surtout le traitement trop rapide de certaines choses, l'abord de Kagura en tête justement, mais aussi le développement de Horus, balancé en même pas une page, ainsi que l'incapacité habituelle du mangaka à élever le niveau dans le rendu de l'action, celle-ci restant toujours aussi simpliste. Néanmoins, au bout de tout ceci, cette affaire qui n'est pas passée inaperçue permet aussi d'intriguer de plus belle quant aux agissements à venir des différentes forces en place dans ce monde, et il n'en faut pas plus pour garder notre attention tandis qu'une nouvelle partie se dessine déjà en fin de tome, dans l'habituel schéma classique, nos héros partant à la recherche d'un autre peuple, sur fond de quelques moments d'action face à des ennemis dont les motivations restent énigmatiques. En attendant de voir ce que donnera ce nouvel arc, ce tome s'avère assez sympathique. L'auteur a beau rester largement en dessous de ses capacités, il y a suffisamment d'éléments intrigants pour susciter l'envie de connaître la suite. En revanche, on s'interrogera sur le résumé en 4e de couverture, où l'éditeur parle de choses qui arrivent tout juste dans les toutes dernières pages. Voilà. Donc Ariane, l'Empire Céleste, a retrouvé aux éditions Glénat avec pour le moment 12 tomes de sortie. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Gaga Life de The Mad Capsule Market. Et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine. We'll be right back. Donc c'était The Mad Capsule Markets avec la chanson Gaga Life. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on aura des sorties mercredi 23 mars chez Delcourt Tonkam avec le volume 8 de Harry Furuta de Zero à Hero et le volume 3 de Harry Furuta Origin. Aux éditions Kazé, on aura la sortie du volume 12 de Black Lagoon. Aux éditions Panini, le volume 7 de Eden, la réédition 2021, et le volume 13 de Sido, la réédition 2021 également. Aux éditions Soleil, on aura la sortie du volume 7 de Jeune Dragon, Recherche Appartement ou Donjon, la sortie du volume 3 de Midnight Secretary, la Perfect Edition, le volume 4 de Raw Hero, et le volume 5 de Stray Cat and Sky Lemon. La dernière sortie de mercredi, ça sera aux éditions Pika, avec le volume 2 de Trèfle, la réédition 2022. Pour jeudi 24 mars, aux éditions Omake Books, on aura la sortie du volume 3 de Ban le Bouzeux, aux éditions Akata, le volume 1 de Boys Run the Riot, et le volume 9 de Don't Fake Your Smile, qui sera le dernier tome de la série. Aux éditions Hachette, on aura la sortie du volume 17 de Fairy Tail, et après, on passe aux dernières sorties de la semaine pour vendredi 25 mars. Donc on aura chez Shock Dome le volume 3 de Hail and Kuka, le volume 2 de Ao-chan Can't Todai chez Noev Crafts. Ensuite, aux éditions Taifu Comics, on aura le volume 2 de Barbarities et le volume 2 de Whispering You, Love Song. Je vais y arriver. Aux éditions Isan Manga, on aura la sortie du volume 1 de Captain Ken. Aux éditions Ototo, le volume 5 de Danmachi Familia Chronicle, épisode Ryu. Le volume 4 de Interspecies Reviewers et le volume 2 de Sex Education 120%. Aux éditions Nio Niba, on aura la sortie du volume 1 du Miel des jeunes filles en fleurs. Aux éditions NC, le volume 1 de Lost Sahara, la version deluxe. Aux éditions Manhead, le volume 4 de Martial Universe. Aux éditions Nazca, on aura la sortie du volume 15 de Tales of Demons and Gods. Et enfin, chez Chato Chato, on aura la sortie des volumes 1 et 2 de Zombie from No One, donc une série qui sera terminée avec ce deuxième tome. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Mune Kyunmero de The Melt, et on reviendra juste après pour parler culture avec les secrets du saké.
しるべは 君を見てる 今は さよならは言わないで いつでも会えるから 思いが募る夜は 君に歌うよ 寂しがり屋で わがままな性格の 君が好きだから いつも君の幸せを願っているよ。この気持ちに嘘はない。意地張りでわがままな性格の君とこれからも
Donc c'était The Melt avec la chanson Mune Kyunmero. On passe maintenant à la partie culture, on va continuer à parler des secrets du saké à partir du livre de Siméon Mollard qui est paru aux éditions Iseki Nicho. Donc on va parler du secret numéro 15, les sous-catégories de saké. Donc pour résumer, le saké se divise en deux modèles. On a le saké japonais et son homonyme, le saké chinois. Dans le saké japonais, on retrouve deux familles, les futsu et les premium. Parmi les premium, il existe des catégories, donc j'en ai parlé déjà la dernière fois. On a les ginjo et les daiginjo, qu'ils soient junmai ou avec alcool ajouté. Donc s'arrêter là serait trop simple, il existe quantité de sous-catégories qui apportent une valeur ajoutée au saké. Celles-ci ne sont pas toujours exclusives les unes par rapport aux autres, et il est souvent possible de les cumuler. Donc on va faire un petit zoom sur 5 d'entre elles, parmi les plus réputées. Donc on va en faire 2 cette semaine et on parlera des 3 dernières la semaine prochaine. Donc on va commencer avec la sous-catégorie Genshu. Donc le Genshu est un saké où le brasseur oublie volontairement, ou du moins on l'espère, l'étape de la réduction. Il n'ajoute pas d'eau à ses cuves. En résulte un saké fort comme un sumo. Souvent entre 17 et 20 degrés d'alcool, donc voilà pour ce saké. Le monde merveilleux du Nihonshu laissant toujours place aux exceptions pour embêter les auteurs de livres, il existe toutefois des Genshu qui sont réduits. La seule règle qui semble respectée, c'est ne pas ajouter plus de 1% d'eau au volume total de la cuve. Et donc on a également le Nigori, donc le saké Nigori est un saké non filtré en théorie. En réalité, l'étape de la presse constitue en soi une filtration, on y sépare le riz non fermenté du jus. Les Nigori sont donc des sakés où la filtration a été faite grossièrement. Les techniques sont nombreuses, avec des sacs plus lâches, des passoires au trou plus gros, une récupération des fonds de cuve, etc. Il existe des techniques moins avouables pour faire un Nigori, le saké est filtré, parfois même clarifié. Le brasseur réintègre par la suite les matières qui n'avaient pas fermenté dans ses cuves, afin de lui donner sa légendaire couleur blanche. Une rumeur raconte que l'on ne peut pas faire chauffer un Nigori, ce qui serait mauvais pour le corps. Celle-ci n'a pas dû atteindre les oreilles des Japonais, puisque dans les campagnes, le Nigori est parfois bu chaud. Voilà, donc on continuera à parler de ces sous-catégories de saké la semaine prochaine. En attendant, on va s'écouter une autre chanson, c'est White Soul de The Microheads Fonz, et on viendra juste après pour la chronique du volume 4 de 100 jours avant ta mort. Don't you leave me alone, 君と始める
揺れること
c'était White Soul de The Microaids Fonz. On passe maintenant à la chronique du volume 4 de 100 jours avant ta mort. Donc je rappelle que c'est un shoujo de genre comédie, drame, romance, vie scolaire, tranche de vie, qui a été écrit par Mugihara et prépublié dans le Mangami. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 6 volumes qui terminent la série, et la version française est parue aux éditions Glénat avec pour le moment 5 tomes de sortie. Ce volume 4 est paru le 15 septembre 2021 au prix de 7,60€. Donc le résumé de ce tome, il a fallu à Taro 4 déclarations d'amour avant Kumi, son ami d'enfance, accepte de sortir avec lui. Les voilà enfin en couple quand se déclenche un compte à rebours annonçant qu'il ne reste plus que 100 jours à vivre à Umi. Découvrant qu'il peut remonter l'espérance de vie de sa bien-aimée en faisant battre son cœur, Taro fait tout pour y parvenir. Seulement le compte à rebours d'Umi augmente de moins en moins. Les amoureux décident alors de s'éloigner l'un de l'autre pendant quelques temps. Ils se promettent de tenir une semaine, mais le dernier jour, Umi craque et débarque dans la chambre de Taro. Donc comment Taro parviendra-t-il à stabiliser l'espérance de vie d'Umi? C'est la question que l'on se pose depuis déjà 4 tomes. La série de Mugihara parvient à nous toucher depuis ses débuts, notamment grâce à des personnages bien écrits et quelques rebondissements qui tendent vers le fantastique. Dès qu'on a la sensation de tourner en rond, le manga nous surprend et relance notre intérêt pour cette histoire aussi dramatique que mignonne. On est en effet loin de la simple amourette de collégien, et notre héros Taro a un pouvoir spécial depuis son enfance, celui de visualiser un compte à rebours sur tous les êtres vivants qui ont moins de 100 jours à vivre. Et c'est le cas de sa petite amie Umi qu'il cherche à tout prix à sauver. Mais comment s'y prendre? En restant auprès d'elle et en faisant tout pour la rendre heureuse, ou en prenant ses distances pour la préserver? Taro demande conseil à ses amis et notamment Itsuki qui a lui aussi un pouvoir, celui de voir l'avenir des personnes qu'il touche. Un pouvoir pas toujours facile à gérer, en témoignent les séquences très réussies sur l'enfance de ce personnage. Itsuki est de son côté harcelé par une fille qui va s'en prendre à Umi dès les débuts de ce tome. Heureusement Taro sera une nouvelle fois là pour elle. Taro et Umi semblent clairement inséparables et un éloignement n'est pas envisageable. Ce tome 4 est donc une nouvelle réussi car il parvient à proposer un rythme intéressant et de nouveaux rebondissements. On apprécie également ce passage durant lequel notre groupe d'amis récapitule tous les événements depuis le début, idéal pour bien se remémorer ce qu'il s'est passé jusqu'à présent. Malgré tout, des zones obscures persistent et jouer avec l'avenir semble risqué. Ce tome se termine d'ailleurs avec un voyage dans le passé que je vous laisse découvrir. Malgré quelques séquences un peu trop tire-larmes et parfois trop sur la réserve, ce qui en devient pénible, l'ensemble est réussi et les visuels sont une nouvelle fois de qualité. On apprécie les grandes illustrations qui mettent en valeur les personnages et leurs regards. La fin du tome est prometteuse et nous devrions en apprendre davantage sur Umi dans le cinquième tome qu'on a hâte de découvrir. Voilà, donc je rappelle que 100 jours avant ta mort est disponible aux éditions Glénat avec pour le moment 5 tomes sur 6 de sortie. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Ageshi Amega de The Motts. Et on viendra juste après pour la chronique du volume 4 de Elio le Fugitif.
Oh, 激しい雨もっと強く降りつけろ乾いた喉空っぽのこの街激しい風もっと強く吹きつけろ過ぎてゆく今を子守歌みたいに行くあてなく
Donc c'était The Mods avec la chanson Ageshi Amega. On passe maintenant à la chronique du volume 4 de Helio le Fugitif. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre action historique horreur qui a été écrit par Osokawa Masami et prépublié dans le Shukan Shonen Champion. La version japonaise est parue aux éditions Akita Shoten avec un total de 5 volumes qui terminent la série et la version française est parue aux éditions Glénat avec également 5 tomes. Ce volume 4 est paru le 20 octobre 2021 au prix de 6,90€ et je rappelle que la série est pour public averti à cause de la violence. Donc le résumé de ce tome, qui est Helio, l'homme accusé d'avoir tué son petit frère. Il nous dévoile enfin son passé. Nous voici revenus au temps où régnait Alfonso XI, le père de l'actuel roi Pedro et d'Enrique. Helio et son frère cadet Pablo participent aux sélections des prochains habits royaux, les gardes du corps du roi. Ces rudes combats éliminatoires entre les différents candidats vont révéler un profond mal-être qui dévise la famille d'Helio. Donc la fin approche de cette série. Ce tome 4 de Helio le Fugitif est en effet l'avant-dernier de la série et il reprend donc là où le volume précédent s'était achevé, à savoir 5 années dans le passé. L'occasion de découvrir ce qui est réellement arrivé au frère cadet de notre héros, Pablo, un jeune homme au tempérament bien différent de celui d'Helio. Les combats reprennent donc dès les premières pages afin de désigner qui sera le garde du corps chargé de la protection rapprochée du souverain. Ça bastonne donc sec d'entrée et tout le talent de Masami Osokawa pour mettre en scène ces affrontements saute à nouveau aux yeux. Les dessins sont nerveux et souvent de grande taille pour mettre en avant le dynamisme et la violence des coups. Le travail sur les visages est également excellent avec un soin tout particulier accordé à Pablo qui semble abriter une certaine noirceur. Les regards sont très expressifs. Ce dernier dégage une certaine violence et va réaliser qu'il est temps pour lui de suivre sa propre voie. Prenant son destin en main, il va aller jusqu'à affronter son père dans un violent combat avec le destin qu'on lui connaît. La scène est aussi percutante que touchante et on arrive désormais à donner un sens aux mots prononcés par Helio au début de la série. Les intrigues politiques ne sont pas en reste avec la présence de Luca Alvarado, un jeune tueur chargé par la reine légitime d'éliminer la maîtresse du roi. Ce tome 4 est clairement une réussite malgré un temps de lecture un peu court. Forcément, avec des combats qui prennent une grande place dans le récit et un découpage fait de grandes cases, l'ensemble passe trop vite à nos yeux. Puis, une fois ce retour en arrière terminé, on sent que les choses vont rapidement avancer. Après tout, il ne reste plus qu'un tome pour terminer le récit et la bataille entre le roi Pedro et son demi-frère Enrique promet de belles choses. Pedro sent que tout va se corser et se débarrasse de sa mère pour éviter qu'elle ne soit en danger. Et Enrique recherche des alliances et obtient le soutien des royaumes d'Aragon ou encore de France, allant jusqu'à rencontrer le seigneur Albuquerque pour le rallier à ses côtés. La tension monte, les armées se rassemblent et il ne fait aucun doute que le dernier tome nous en donnera pour notre argent. Réponse donc, déjà c'est sorti, mais voilà, si vous n'avez pas encore lu le dernier tome, vous aurez la réponse dans ce dernier tome. Voilà. Donc je rappelle que Helio le Fugitif est à retrouver aux éditions Glénat avec un total de 5 tomes qui terminent la série. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Lips de The Oral Cigarettes. Et on reviendra juste après pour finir l'émission avec News Musical.
嘘一人あげにニップきっと私を連れ出してこの街の日が消えてしまうからあなたにこの街に咲く小さな想いもしもあなたに届けば真冬の空に
Donc c'était The Oral Cigarettes avec la chanson Lips. On va maintenant finir l'émission avec news musicale. Le tourneur Cultophia a annoncé 3 dates en Europe pour le rappeur Gemini et la rappeuse Mirani. Le DJ Ko.kr se joindra à ces deux artistes. Donc la date en France, à Paris, ça sera donc à la salle du Trabendo le 8 mai. Donc si jamais ça vous intéresse d'aller voir donc ces deux rappeurs et ce DJ, ailleurs en Europe, voici donc les 3 dates pour l'Europe. On aura le 3 mai 2022 à Amsterdam au P60, le 6 mai 2022 à Londres au Oval Space, et donc je le disais tout à l'heure, le 8 mai 2022 à Paris au Trabendo. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà acheter vos places en ligne, ainsi que rejoindre l'événement Facebook pour la date en France. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, je vous propose de découvrir Mirani avec la chanson Daisy en featuring avec PH1 pour finir l'émission. Je rappelle que vous pourrez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, ça sera comme d'habitude lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!
돌아가지 못해 배고팠던 그때 life was crazy 도서 모아 빌었던 그 밤은 너무 길어 I be praying to God Can somebody save me Daisy 꽃다발에 지난 날들과 검게 시든 아픈 상처들까지 다 두 발 벌린 내 과거의 작은 품 속에 건네주고 떠날게 하늘 위로 떠날게 더 이상 할 필요 없어 걱정 기회가 보이면 물어 한 입에 덥서 If I want it then I swear I'ma get it Ain't no time for decisions It's a money season 지독한 향을 내 RIP to my past Now I see